France Culture. France Culture, de cause à effet. Aurélie Luneau.
De détricotage en renoncement, la transition écologique a-t-elle encore sa place dans les priorités politiques? Dans ce processus irréversible de crise climatique et environnementale qui touche la planète et face à ses effets dévastateurs qui rythment l'actualité, il apparaît urgent et vital d'honorer les engagements pris et de poursuivre les efforts engagés. Pour rappel, l'Europe s'est donné pour objectif d'atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre en 2050 et a lancé en 2019 le Pacte vert. Mais la montée des exaspérations et des colères face à une écologie souvent perçue comme punitive ont déjà abouti à des reculs et des reports de la part de gouvernements. Que signifient ces choix politiques? Comment redonner du souffle à cette transition écologique? Quelles sont les solutions pour engager ce qui apparaît comme une révolution sociétale? Dans le cadre de cette émission spéciale en partenariat avec Le Monde, je suis ravie d'accueillir Mathieu Gohard. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Monde, en charge du suivi des politiques environnementales. À vos côtés, Théodore Talland, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur et enseignant en sciences politiques à Sciences Po Paris et à Berlin, à la
Hertie School.
Et vous travaillez sur le backlash écologique et l'acceptabilité des politiques climatiques. Et avec nous, en distanciel, David Jayes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes essayiste, co-auteur du livre « La révolution obligée », écrit avec Xavier Desjardins et paru chez Alary Éditions. Bienvenue à tous les trois dans le magazine de l'environnement de France Culture, en partenariat donc avec le journal Le Monde. Émission préparée par Célestine Babinet avec Aurélie Marseille, Vanessa Chang, Pierre Pinault de l'INA et les équipes de documentation de Radio France. Émission réalisée par Alexandra Malka avec à la technique Grégory Wallon.
Monsieur le Premier ministre, entendez-vous le cri de colère de nos agriculteurs? Ce cri, je vais le faire mien, car partageant tous les jours les mêmes angoisses, les mêmes incompréhensions, les mêmes révoltes. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ne comprennent plus ce que la France et son gouvernement veulent. Nourrir sans produire, cultiver sans culture, élever sans élevage. Ils n'acceptent plus les messages de condamnation de tous ces pseudo-experts, Caron, Clément, Rousseau, qui leur donnent des leçons sur les médias. Ils n'acceptent plus d'être verbalisés pour écobuage, alors que durant les émeutes, des milliers d'incendies criminels sont restés impunis. Ils n'acceptent plus ces interdictions qui leur empêchent de faire leur travail, comme les néonicotinoïdes, alors que l'on importe des milliers de tonnes d'aliments qui en contiennent. Ils n'acceptent plus les contrôles acharnés que lorsqu'ils traitent pour protéger leurs vergers ou leurs cultures, alors que toujours plus d'accords de libre-échange sont signés sans contrôle à nos frontières. Ils n'acceptent plus qu'on les bassine avec ces 10 ans méga-bassines qui sont le fruit d'une stigmatisation d'une minorité qui terrorise la majorité. En un mot, ils n'acceptent plus le poids de cette folie administrative, de cette technocratie abrutissante qui empêche tout, qui interdit tout, qui tue les paysans petit à petit. Alors, monsieur le Premier ministre, je n'ai pas de questions à vous poser tant l'accumulation des problèmes que l'agriculture rencontre résume à elle seule le mal français. Les mots ne suffisent plus à calmer ce mal, il faut des actes. Faites rentrer et retenez vos tigres qui sont de la DREAL, de la DDT, de l'OFB, de la DDSPP, de l'inspection du travail ou de la police de l'eau, afin qu'ils arrêtent cette pression insupportable.
C'était la colère du sénateur LR de la Haute-Loire, Laurent Duplomb, au Sénat. Intervention diffusée sur Public Sénat le 4 janvier 2024. Un document qui nous donne le climat actuel et nous plonge dans le sujet avec la question des positions politiques, des colères de terrain, des attaques contre les institutions environnementales et climatiques. Peut-être que vous avez envie de réagir les uns les autres. Première réaction, Mathieu Gohard.
Oui, c'est un son qui est symptomatique parce que la proposition de loi Duplomb était une loi qui réintroduit des insecticides, etc., dont on essaye de se débarrasser, en tout cas pour les acteurs de l'environnement. Et là, on voit surtout les attaques contre les acteurs de l'environnement, c'est-à-dire les agences de l'environnement, l'OFB, l'ADEME. On voit depuis le début de l'année en France beaucoup de textes qui s'attaquent sur le fond de la transition écologique, la simplification économique qui entraîne une volonté de suppression des zones à faible émission, du zéro artificialisation nette, mais aussi des attaques contre les acteurs de l'environnement, repris parfois par un Premier ministre comme François Bayrou, qui dans son discours de politique générale disait aussi que l'OFB va trop loin vis-à-vis des agriculteurs. Et c'est quelque chose de très symptomatique parce que finalement le monde politique est plutôt solidaire à juste titre des agents qui s'occupent de la sécurité des Français, les forces de l'ordre, mais quand il s'agit des agents de l'environnement, un Premier ministre peut se permettre de les attaquer. Donc je trouve que c'est symptomatique d'une ambiance en ce moment.
Théodore Talon ?
Je suis tout à fait d'accord, ça illustre parfaitement la conflictualisation grandissante sur les enjeux écologiques qu'on voit depuis quelques années, on va dire 2-3 ans. Et c'est ça qui nous amène certains chercheurs à parler de backlash écologique. Quand on parle de backlash, c'est pas un terme juste qu'on utilise parce qu'il fait sympa, c'est un terme qui vient de la littérature aussi scientifique qu'en sciences politiques, et qui, à mon avis, illustre très bien ce qui se passe, c'est-à-dire des acteurs qui, historiquement, étaient relativement dans le consensus environnemental, faisaient pas toujours des régulations très pro-environnementales, mais étaient relativement d'accord sur le fait qu'il fallait agir, et qui d'un coup adoptent un discours très agressif, non seulement sur une régulation en tant que telle, mais aussi sur les acteurs qui portent cette régulation et toute personne qui défendrait l'enjeu en tant que tel. Donc l'enjeu devient un sujet de conflit, l'enjeu écologique, et on s'attaque à des sujets comme la pollution de l'eau. Donc, c'est-à-dire quand il attaque les allonges de l'eau, ça veut dire la pollution de l'eau qui se retrouve dans nos robinets. On s'attaque à tous les acteurs écolos qui font office de personnalité stigmatisante. Et ce que je trouve intéressant, c'est aussi le registre symbolique qui est utilisé par ces acteurs du backlash. Typiquement, le sénateur, quand il s'attaque aux écolos d'un côté et de l'autre côté, il défend les paysans. On voit bien que cette dichotomie qu'il essaie de mettre en place et qui permet de justifier les reculs, alors même qu'on sait très bien que les paysans sont marginalisés par le lobby agricole et qu'en réalité, les lobbies qui sont derrière sont plutôt l'agro-industrie, le président de la FNSEA étant plutôt le Bernard Arnault de l'agriculture qu'autre chose. Et ça, c'est quand même intéressant parce qu'il utilise un langage qui lui permet de justifier des reculs environnementaux, alors pourtant que ces reculs ne sont pas soutenus par la population.
David Jayes, sur cette atmosphère qui imprègne le monde politique ces dernières années et donc ce backlash.
Oui, je vais pas ajouter à ce qui a été dit avec lequel je suis en accord. Peut-être essayer de comprendre pourquoi ce backlash depuis 2 ou 3 ans. Il me semble qu'il y a eu une fenêtre favorable à la transition écologique entre 2018 et 2022. Ça correspond au méga-feu qui avait choqué l'opinion publique. Ça correspond aux marches pour le climat. Ça correspond aussi à l'agenda législatif de la Commission européenne post-Covid, qui s'appelait le Green Deal. Et depuis 2022 et la guerre en Ukraine, on assiste à un retournement complet. Le sujet a complètement déserté le monde politique. En réalité, il continue à vivre dans la société civile. On l'a vu avec les 2 millions de signatures de la pétition contre la loi Duplon. Il continue aussi à progresser dans les entreprises, puisque les entreprises ont plan de décarbonation qu'elles mettent en place. Mais il s'est complètement retiré de la sphère politique. Et c'est étrange, parce que on pourrait imaginer que c'est la politique qui devrait être à l'avant-garde des efforts. Et là, on a au contraire une société civile et des entreprises, dans une certaine mesure, qui avancent alors que le monde politique recule. Et l'autre élément de réflexion que ça m'inspire, c'est que ce backlash, il s'explique aussi parce que certaines mesures écologique commence à devenir mordante, c'est-à-dire à entrer dans la réalité. Et forcément, quand ça entre dans la réalité, on l'avait vu au moment des Gilets jaunes, on le voit avec les ZFE, on l'a vu avec les chaudières en Allemagne, eh bien, ça suscite des résistances, des frictions, de la grogne. Et ensuite, la question, c'est est-ce que les autorités politiques sont suffisamment courageuses et arrivent à construire un chemin de transformation, ou bien est-ce qu'elles cèdent au premier coup de sang? Et malheureusement, ce qu'on voit en France, c'est que on est en train de beaucoup reculer ces derniers mois.
Bien, nous allons entrer dans ce processus justement et donner à comprendre au mieux cette transition écologique telle qu'elle se vit aujourd'hui. Précisons aussi que la loi Duplon a été retoquée par le Conseil constitutionnel fin juillet 2025 sur la question de l'autorisation de cet insecticide néonicotinoïde, l'acétamipride, interdit en France depuis 2018. Retour d'abord avec vous sur les détricotages les plus emblématiques en Europe et en France. Écoutez tout d'abord ces réactions de citoyens à l'annonce de la fin des ZFE, zones à faible émission.
Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça ne sert à rien. Avoir des critères 1, 2, 3, 4, c'était plutôt tapé dans le portefeuille des Français qui ne peuvent pas se payer de voiture. Donc, non, je trouve que c'est une bonne chose.
C'était quand même agréable de pouvoir voir la Tour Eiffel, de pouvoir voir le ciel de Paris et qu'il n'y ait plus cette nappe de pollution là qu'on avait il y a quelques années. Après, pour ce qui concerne les vignettes critères, les ZFE, écoutez, ouais, on fait un peu du rétropédalage. C'est dommage.
Je pense quand même que malgré les inconvénients que ça présente, il faut les maintenir. Bon, la seule chose, c'est que c'est, je crois, assez mal organisé. Il faudrait, mais c'est pas facile à faire à Paris, qu'il y ait des moyens de transport pour rentrer dans Paris qui soient assez accessibles, ce qui n'est pas vraiment le cas pour l'instant. Voilà. Pour les Parisiens, ça va, mais je pense que pour les gens qui sont à l'extérieur à Paris, c'est pas si évident.
Je suis cycliste, je sais qu'il y a pas mal de choses, pas mal de problèmes environnementaux en ce moment, mais c'est un peu compliqué pour tout le monde, donc si on la rend encore plus difficile pour les personnes qui ont besoin d'aller bosser, c'est un peu chiant. Cycliste, voiture, On doit tous vivre.
Quelques réactions diffusées sur France 24 le 29 mai 2025, ZFE. On voit bien que le secteur des transports demeure au cœur des tensions socio-écologiques. Théodore Talland.
Ah ben les transports en France, c'est probablement le sujet, en tout cas à mes yeux, qui clive le plus la société, notamment lorsqu'on parle de transition écologique. Parce que déjà, on est un pays qui n'est pas extrêmement industriel par rapport à l'Allemagne ou la Pologne, ce qui fait que dès qu'on s'attaque aux émissions de CO2, souvent on s'attaque aux transports, parce que c'est environ un tiers de nos émissions, avec une bonne partie commerciale et une autre partie individuelle. Et les zones à faible émission, j'ai presque envie de dire, c'est encore plus l'exemple parfait de ce qu'on n'a pas réussi à faire avec la transition écologique, c'est-à-dire une politique qui a été pensée à la base pour la santé des gens, pas pour les émissions de gaz à effet de serre, quelque chose qui n'a pas forcément été compris d'ailleurs. On avait toujours dans les débats politiques la sensation qu'on savait pas trop pourquoi on faisait des zones à faible émission, et cette incompréhension elle se remarquait sur le terrain. Moi, quand je faisais des entretiens autour de Strasbourg, typiquement, dans les petites communes rurales ou périurbaines autour de Strasbourg, les gens comprenaient pas toujours pourquoi on faisait nos affaires d'émissions. Est-ce que c'était pour baisser les émissions? Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il y a des gros 4x4 qui rentrent? Ou est-ce que c'était pour baisser la pollution de l'air? Et dans ce cas-là, on peut comprendre pourquoi il faut pas avoir de vieilles voitures qui rentrent. Mais du coup, qui détient les vieilles voitures? Ce sont les personnes les plus précaires. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant avec les zones à faible émission, c'est que c'est l'exemple parfait d'une politique qui a pas été toujours très bien menée, avec des mécanismes de compensation qui n'ont pas forcément toujours été mis en place. Les gens n'ont pas toujours eu accès aux moyens suffisants pour passer à la mobilité électrique, pour passer à des critères 1 ou 2, typiquement pour entrer dans une métropole, ou au transport public. Et en même temps, on a eu des acteurs, les acteurs du backlash, qui ont essayé d'instrumentaliser la colère légitime, mais très localisée, d'une partie de la population. On estime que c'est environ 500 000, 600 000 personnes qui étaient impactées dans les modalités actuelles de comment est-ce qu'on développait le calendrier des LFE et qui ont essayé d'instrumentaliser cette colère localisée autour de certaines métropoles pour essayer d'en faire un discours généralisant qui dirait, selon le polémiste populiste Alexandre Jardin, qu'il y aurait 10 à 12 millions de gens qui étaient impactés par les zones à faible émission. C'est donc faux, mais la difficulté avec ce genre de discours, c'est que c'est un discours qui a marché parce que ça se base sur une réalité qui sont des politiques parfois mal pensées au niveau local, même si elles restent il y a une légère majorité de la société qui les soutient et qui ensuite sont montés en épingle par les acteurs du backlash, souvent d'extrême droite ou de droite conservatrice radicale, qui ont instrumenté la question et qui ont créé ce recul qu'on a observé.
Mathieu Gohard, bon, ça nous fait penser aux gilets jaunes, pour revenir aux premières tensions.
Oui, si on remonte en fait depuis le début de l'année, on assiste au détricotage d'une loi qui s'appelle la loi climat et résilience, qui est en fait l'aboutissement de la crise des gilets jaunes, puisque après les gilets jaunes, on a fait une convention citoyenne pour le climat qui a abouti à une grande loi qui était la loi climat et résilience, dans laquelle il y avait les ZFE, le zéro artificialisation net, et ces deux grandes mesures. Le zéro artificialisation net, c'est pour moins artificialiser les sols, tout simplement, et arriver à une neutralité en 2050. Et ça, il y a un détricotage autour de ça. En fait, le personnel politique, moi, c'est là que j'ai commencé à sentir un peu le backlash aussi en France, s'en sont éloignés des ZFE. Très vite, du côté des ministères, de l'Élysée, de Matignon, on a entendu, après 2021 et la loi climat et résilience, non, mais c'est les collectivités locales qui vont les mettre en place, les ZFE, hein, et par peur justement d'être trop verticaux, d'être trop parisiens et de l'imposer. Il y avait une vraie raison qu'on pouvait comprendre aussi, mais on peut ne pas beaucoup évoquer les ZFE, mais on peut travailler sur l'accompagnement, le financement, le ciblage des gens qui sont le plus concernés par les ZFE, donc les quartiers, certains quartiers populaires, certaines catégories populaires, qui ont besoin d'argent pour transitionner, pour en tout cas avoir une voiture électrique. Et ça n'a pas été fait pendant plusieurs années. Et c'est revenu par le biais du backlash et des écolosceptiques, par le biais d'un populisme anti-écologie. Donc c'est pas qu'on ne parle plus d'écologie depuis 2-3 ans, c'est qu'on a laissé le discours, une partie du personnel politique a laissé le discours à ceux qui sont contre la transition écologique et au niveau mondial à Donald Trump en fait.
Ah oui, ce qui génère ces renoncements, ces reculs, ces mises en pause. David Jayes, on peut parler de différents secteurs pour donner à comprendre où se situent ces détricotages. On voit bien que le New Deal européen est mis en pause, peut-être quasi à l'arrêt depuis 2023. On parle de la loi climat et résilience détricotée, les énergies renouvelables avec des questions sur leur financement, etc. MaPrimeRénov'. Enfin bon, la liste est longue.
Alors oui, mais peut-être pour prendre un peu le contre-pied, avec mon co-auteur Xavier Desjardins, on s'était amusé à regarder la chorégraphie des politiques publiques de l'écologie. Et on constate que c'est souvent un pas de trois. C'est-à-dire que dans un premier temps, on proclame un objectif qui est souvent ambitieux, mais qui est d'autant plus ambitieux qu'il est abstrait et lointain. Par exemple, la neutralité carbone en 2050, l'interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs à partir de 2035, la diminution de 50% des pesticides après 2030. Ça, en général, c'est voté dans un relatif, sinon consensus, au moins avec des majorités assez larges, assez confortables, que ce soit au Parlement européen ou au Parlement français. Sauf que quand ça entre en vigueur, quand ça entre dans la réalité, là, ça suscite des résistances. Ça suscite de la grogne. Et cette grogne, effectivement, elle est instrumentalisée par des forces politiques qui ont un agenda anti-écologique ou qui plutôt utilisent la dénonciation de l'écologie comme un prétexte de plus pour leur agenda populiste. Et à ce moment-là, troisième temps, les acteurs politiques reculent. Et donc, on a la proclamation d'objectifs très ambitieux, un début d'entrée dans la réalité et un recul. Et donc, ce qui nous manque, parce qu'on le voit à travers plusieurs exemples, plusieurs politiques publiques, c'est une vraie mécanique plus négociée, plus contractuelle de la transition, où en réalité, on accompagne les acteurs. Les ZFE sont quand même un cas d'école. C'est-à-dire que pour réussir vraiment les ZFE, encore eût-il fallu expliquer plus précisément les objectifs, accompagner socialement les ménages vulnérables pour les aider à changer de véhicule. Il y a tout un tas de dispositifs de négociation, d'accompagnement, de contractualisation qui sont pas à la hauteur aujourd'hui. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, les trains, souvent, ne passent qu'une fois. C'est très difficile de remettre en jeu une politique publique de transition quand on a dû y renoncer à la suite d'une contestation. Rappelez-vous, par exemple, des portiques qui avaient été installés pour l'écotaxe poids lourd et qui, à la suite de la mobilisation, avaient été retirés sans avoir été utilisés.
Et on imagine, David Jayce, que le contexte international joue aussi avec le retour de Donald Trump aux États-Unis et toutes les politiques anti-écologie qui sont prises là-bas.
Ah bah oui, là-bas, en fait, il y a vraiment une politique publique assumée de destruction ou de détricotage de l'écologie, puisqu'il y a même certains États américains où des entreprises sont interdites d'opérer si elles font de la RSE ou si elles ont un agenda de diversité, d'égalité et d'inclusion. Donc vous voyez bien qu'il y a un agenda politique extrêmement agressif qui est mis en œuvre aux États-Unis et qui, effectivement, comme c'est souvent le cas, peut avoir des effets de contamination sur l'agenda politique européen.
Mathieu Gohard.
Dans le discours d'investiture de Donald Trump, il y a tout un programme vis-à-vis de l'Union européenne, de mettre sous perfusion l'Union européenne, sous perfusion d'énergie fossile. Tout est dans le discours d'investiture sur l'or qu'on a sous nos pieds, enfin d'aller chercher les énergies fossiles pour les exporter. Et les exporter vers qui ? Vers l'Union européenne. Donc en fait, dans ce qui se passe entre les États-Unis et l'Union européenne depuis quelques mois, il devrait y avoir une réaction européenne de dire justement c'est le moment de verdir, mais à la fois de décarboner notre économie pour être moins dépendant vis-à-vis de Donald Trump. Il a vraiment tout annoncé dès le début, Donald Trump, et de voir le backlash contaminer l'Union européenne au même moment, il y a quelque chose de vraiment très inquiétant pour les années à venir.
Mais on voit effectivement l'inverse en Europe. On voit le rôle des partis populistes de l'extrême droite et les autres partis qui ne s'opposent pas activement au recul écologique. Qu'est-ce que ça dit ?
Ça dit qu'il y a une peur. Le backlash remonte juste après la guerre en Ukraine. Les coûts de l'énergie ont inquiété beaucoup de dirigeants européens, à juste titre d'ailleurs. Je crois que c'est David Jess qui évoquait les chaudières au fioul en Allemagne. C'est quelque chose qui a été très marquant pour l'exécutif français aussi. On a eu l'AFD, l'extrême droite allemande, monter très fortement contre l'interdiction des chaudières au fioul en Allemagne, jusqu'à ce que le gouvernement allemand soit obligé de temporiser et même de reculer après. Et ça, c'est pas passé du tout inaperçu quelques années après les Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'en France et dans les pays européens, il y a une peur des réactions populistes, des réactions de colère de la part des populations. Et donc, on a tracé les trajectoires, on a eu les ambitions de la neutralité carbone jusqu'en 2050, mais quand il s'agit de passer à la mise en œuvre, on a eu un peu peur de la réaction des populations. Ça s'est senti très fortement dans un discours d'Emmanuel Macron à l'automne 2023. Le secrétaire général à la planification écologique, puis Elisabeth Borne, la première ministre, avait dit où est-ce qu'on allait jusqu'en 2030 et jusqu'en 2050. Elisabeth Borne avait augmenté les budgets de l'écologie. Emmanuel Macron a fait un discours où il disait « on va faire une écologie à la française, sans contrainte pour les populations ». Donc voilà, le backlash était déjà très sensible dans les discours. Et donc, on a à ce moment-là laissé un peu plus, aussi par un contexte économique très compliqué pour les dirigeants européens, avec moins d'argent pour accompagner les populations. Et ben, on a laissé l'extrême droite monter sur ces sujets-là. C'était très sensible depuis quelques années. Et c'est, par exemple, au moment des élections régionales de 2021, le Front National, le Rassemblement National, était monté très fort contre les éoliennes, notamment dans les Hauts-de-France. Donc on sentait que c'était un sujet après l'immigration, et l'immigration, ça continue. En tout cas, il y aura un sujet de la part de l'extrême droite contre la transition écologique.
Dans un contexte de crise économique, dans un contexte d'instabilité politique, est-ce qu'on peut dire que la transition écologique est victime de calculs électoralistes ?
Ah oui, clairement. Oui, clairement. L'exemple de Donald Trump a inspiré beaucoup de dirigeants à travers le monde. Hein. Il faut écouter Viktor Orban lors des COP, des conférences pour les partis, pour le climat. Les discours, vraiment, sont des discours anti-élite, en Europe anti-Bruxelles, en France anti-Paris. Et ça, c'est vraiment l'ADN de l'extrême droite et des colères populistes, en tout cas d'un carburant populiste très fort. C'est-à-dire l'écologie, peu à peu, court le grand risque de devenir une écologie des élites contre les catégories populaires. Et ça, les extrêmes droites à travers le monde, et c'est d'ailleurs, il y a différents types d'extrême droite, elles ont différents sujets en fonction des continents, mais l'écologie est devenue un des liens entre les extrêmes droites du monde. Et évidemment, on revient sur Donald Trump. Effectivement, dans le premier mandat, c'était un peu moins sensible de Donald Trump. Dans sa deuxième campagne électorale, enfin sa troisième, puisqu'il y a eu sa non-réélection, mais c'était vraiment un sujet important qui accompagnait son discours populiste contre les élites de Washington.
Théodore Talland, vous qui percevez de façon plus concrète sur le terrain les réactions des citoyens et qui prenez le pouls justement de cette opinion publique, comment vous réagissez ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une opposition vraiment généralisée à la politique climatique ou pas vraiment ? Et finalement, le phénomène de régression est plutôt surestimé.
Ce que j'essaie souvent d'expliquer, avec un peu de nuance, c'est de dire qu'il y a de l'opposition à l'égard de certaines politiques environnementales, au sein notamment de certaines parties de l'électorat, mais qu'il n'y a pas encore d'opposition généralisée à la transition écologique. Je pense que les États-Unis est déjà à l'étape d'après, où il y a une bonne partie de la société qui ne veut plus écouter du tout ce qui se passe autour de cet enjeu-là. L'enjeu est devenu, est devenu tabou. On ne peut pas parler d'écologie dans une grande partie de la société américaine. C'est quelque chose qui est repoussoir. En Europe, on est encore dans une situation où les citoyens, pour une majorité d'entre eux, à part ceux qui sont climato-sceptiques, pour une majorité d'entre eux, ils sont d'accord avec l'objectif de transition écologique, ce qui du coup n'est pas le cas aux États-Unis, mais ce qui est le cas en Europe, et soutiennent tout un ensemble de politiques climatiques qui ne sont pas les politiques forcément les plus coûteuses. Mais on peut penser à la taxation de l'aérien. Une bonne partie des gens ne prennent pas l'avion fréquemment et ne considèrent pas que c'est quelque chose qui est prioritaire à l'aérien. On est plutôt d'accord avec l'objectif de développer les énergies renouvelables, typiquement de développer des subventions à la rénovation, etc. Par contre, effectivement, quand certaines politiques climatiques mettent en place des coûts importants, notamment localisés, et pas compensé, là, on voit de l'opposition qui apparaît. Et du coup, ça, c'est un état de fait que je ne veux pas contredire. Il y a des citoyens qui sont exposés à des coûts et qui, du coup, s'opposent à ces coûts. Par contre, ce qui est intéressant avec le phénomène de backlash, c'est qu'à partir de ces coûts localisés dans une frange de la population, on se retrouve à une critique générale de la transition écologique par des acteurs politiques qui vont politiser et instrumentaliser ces mécontentements localisés. Le cas des chaudières en Allemagne est un très bon exemple. Le cas des zones à faible émission est un autre très bon exemple. Une partie de la population est matériellement vraiment exposée. Mais, et j'ai des collègues chercheurs qui le montrent, une partie de la population perçoit qu'elle est exposée alors qu'elle ne l'est pas forcément. Et ce qui est très fort de la part des acteurs populistes, cette capacité qu'ils ont à aller chercher la perception qu'on a d'être exposé à certains coûts. Et du coup, on se trouve avec des citoyens qui ne sont pas forcément exposés directement à ces coûts, qui ne sont pas forcément opposés à la base, ce que je vois sur le terrain, que je rencontre dans les zones rurales, périurbaines, qui ne sont pas forcément opposés aux zones à faible émission ou à la rénovation du bâtiment, et qui, parce que l'extrême droite vient agiter un chiffon rouge, souvent au moyen de stratégies de désinformation féroces sur les réseaux sociaux et dans les médias de certains groupes, et bien du coup se retrouvent à s'opposer à la transition écologique. Et là, on voit le phénomène de backlash qui s'active avec l'extrême droite, qui instrumentalise, qui polarise la société, qui amène vers elle une partie des mécontents. Mais ça veut dire aussi que si les citoyens restent en soutien à l'objectif principal et qu'ils sont pour des politiques climatiques, si tant est qu'elles sont compensées, ça veut dire qu'il reste de l'espoir. Hein. Ça, c'est, je tiens à le dire dès maintenant.
Et donc, c'est plutôt la méthode qui est dénoncée plus que l'idée de transition en elle-même. C'est ce que vous nous dites, Théodore Talland. Il y a cette responsabilité politique de longue date, David Jays, qui ne s'arrange pas. Avant d'en parler, je vous propose d'écouter ce reportage sur la loi climat et résilience, un reportage diffusé sur France 24 le 10 février 2021.
Fini les vols courte durée. Tout trajet en avion disposant d'une alternative en train en moins de 2h30 sera proscrit. Sur la route, les véhicules les plus polluants seront interdits à la vente à partir de 2030.
C'est une loi qui va faire entrer l'écologie et donc le bon sens dans la vie quotidienne des Français. Et le bon sens, pourquoi ? Parce que c'est deux choses. On va arrêter le grand n'importe quoi sur un certain nombre de sujets. Et on va aussi donner des solutions pratiques.
En matière de consommation, un nouvel indicateur, le score carbone, devra renseigner les caractéristiques environnementales de chaque produit ou service. Le texte fixe aussi un objectif sur la vente en vrac. 20% de la surface des commerces devront y être consacrés à partir de 2030. Dans le domaine de l'habitat, les logements passoires thermiques seront interdits à la location en 2028. Mais de nombreux membres de la Convention citoyenne sur le climat accusent le gouvernement d'avoir revu à la baisse leurs propositions. À l'image de cette maire sartoise.
Il n'y a pas l'ambition du tout des propositions de la Convention citoyenne. Nous, à chaque fois qu'on a fait une proposition, il y avait la justice sociale en face, c'est-à-dire que reste à charge quasi nul pour les plus démunis sur la rénovation énergétique des bâtiments. Interdiction de la publicité sur la malbouffe, ça n'a pas été repris.
La loi crée aussi un délit d'écocide pour punir les pollueurs intentionnels. Des mesures qui, pour les écologistes, vont certes dans le bon sens, mais sont bien loin d'être à la hauteur de l'enjeu climatique.
France Culture, de cause à effet, Aurélie Luneau.
David Jayes, on entendait cette réaction, et notamment la dernière intervenante de ce reportage, qui parlait du manque d'ambition finalement, et d'une vision qui était peut-être à court terme et pas forcément à long terme. Tout était là déjà en 2021.
Oui, de toute façon, moi je pense qu'il y a un problème dans la façon dont on aborde la transition écologique. C'est que la neutralité carbone, pour ne prendre que l'exemple du carbone, ça n'est pas un projet de société. C'est un objectif qu'on doit se fixer pour essayer de préserver une habitabilité minimale de notre planète pour les générations futures, mais ça fait pas un projet de société. Et la grande différence finalement entre les implications politiques de la transition écologique et la façon dont on faisait de la politique au XXe siècle ou au XIXe siècle, c'est que plutôt que de rêver à des lendemains qui chantent, il faut se demander quels sont les meilleurs chemins, les chemins les plus justes pour aller vers la neutralité carbone. C'est-à-dire que l'objectif, il est déjà donné, en quelque sorte. Et donc, le sujet, c'est quels choix politiques, sociaux, moraux, on fait ici et maintenant pour atteindre la neutralité carbone dans les meilleures conditions. C'est comme ça que le débat politique devrait se distribuer. J'avais trouvé que l'ADEME avait fait un travail intéressant, puisqu'ils avaient fait 4 scénarios qui sont des chemins vers la neutralité carbone. Et ils montraient que pour aller vers la neutralité carbone en 2050, il y avait des façons très différentes d'organiser la société, d'organiser la production, d'organiser le système capitaliste, d'organiser la mondialisation. Et au fond, le vrai débat politique, il devrait se situer là. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'en fait, aujourd'hui, effectivement, aux États-Unis, un intervenant le disait tout à l'heure, il y a un Américain sur deux qui est climato-sceptique. Donc, il n'y a pas de débat sur les modalités économiques, politiques de la transition. Il y a pour ou contre la transition. Et en Europe, c'est plutôt 8 Européens sur 10 qui sont convaincus que le réchauffement climatique est un grave problème. Donc on pourrait avoir ce débat, mais on n'arrive pas à le structurer à ce niveau-là. On se contente d'avoir des mesures qui s'égrènent un peu comme sous la forme d'un catalogue, y compris que le Green Deal, vous parliez du Green Deal tout à l'heure, c'est un catalogue de mesures, et on a beaucoup de mal à faire entrer ça dans des équations politiques et sociales.
Donc c'est tout le problème, hein. C'est un catalogue réglementaire ou fiscal, donc pas suffisamment industriel. Vous dites dans votre livre, David Jayes, qu'il fonctionne en silo, ce catalogue de règles, de mesures, de normes, de quotas, sans véritable politique ou agricole ou industrielle pour accompagner.
Le problème, c'est que reconnaissons quand même à la Commission européenne et au Parlement européen d'avoir eu une vraie ambition législative entre 2019 et 2022 autour des questions environnementales. C'est indéniable. Le problème, c'est que vous avez d'un côté la direction générale au niveau de la Commission environnement qui prépare des textes assez ambitieux sur les questions climatiques avec différents instruments fiscaux, juridiques. Et puis à côté, vous avez une direction générale de la concurrence qui ne permet pas d'avoir une vraie politique industrielle pro-climat. Et vous avez une direction générale du commerce qui continue à négocier envers et contre tout des accords de libre-échange avec des zones comme le Mercosur, où on sait très bien, et c'est ça qui rend aussi certaines mesures très difficiles à accepter, par exemple pour les agriculteurs, quand vous négociez un traité de libre-échange avec le Mercosur et que vous savez que vous allez importer des produits qui ne respectent aucun standard sanitaire ou environnementaux qu'on s'impose à nous-mêmes et que vous n'avez en réalité que très peu de moyens de contrôler la qualité de ce qui entre en Europe, eh bien il y a le sentiment d'un deux poids deux mesures qui est lui aussi délétère pour l'adhésion des populations à la transition écologique.
C'est ce risque-là, un sentiment de déclassement, de mépris, une cassure peuple, élite et Paris-Province qui peut aussi faire du mal, Théodore Talon.
Oui, mais ça, je le vois assez fréquemment sur le terrain, notamment quand on va dans les zones rurales, périurbaines, et qui sont pas dans la, on va dire, la sphère d'influence de Paris. Du coup, moi, je suis allé en Alsace, en Lorraine, notamment dans les anciens territoires industriels de Hayange, Florange, et aussi dans le centre-Bretagne, qui est une zone très peu peuplée, où il y a beaucoup de pratiques agricoles, y compris des pratiques agricoles qui ont un impact très important sur l'environnement. On connaît le problème des algues vertes en Bretagne. Donc en fait, c'est des personnes qui souvent me parlent et ont conscience des problèmes environnementaux, notamment des dégradations environnementales locales, considèrent que c'est important de... Ah bah, le bon sens, on parlait de bon sens tout à l'heure. Le bon sens, s'occuper de son environnement, de faire attention, de changer les choses. Par contre, c'est vrai que souvent, j'entendais des arguments disant le bon sens, bah, c'est l'inverse de ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire, on veut pas forcément des politiques qui nous arrivent d'en haut. Il y a la défiance très importante, non seulement à l'égard du président Emmanuel Macron et du gouvernement, mais aussi à l'égard de Paris en tant que tel, en tant qu'entité, en tant que symbole de ce qu'elle incarne comme centralisation en France. Et du coup, j'entendais très souvent ces conflits d'échelle. Les gens qui me parlaient de l'environnement à leur échelle locale, des solutions à l'échelle locale aussi, et du coup, des problèmes qu'ils voyaient dans leur environnement de vie, et ensuite des solutions qu'ils percevaient comme étant mises en place par des élites qui s'imposaient d'ailleurs pas à elles-mêmes les contraintes qu'elles imposaient sur les gens. Après, c'est des discours qui sont assez fréquents en France, on les connaît depuis très longtemps. L'extrême droite populiste se nourrit de ce ressentiment à l'égard de la capitale. Mais c'est vrai que les politiques de transition écologique, qu'elles le soient ou pas, en tout cas en termes de perception, elles sont perçues comme étant imposées d'en haut et avoir ce petit mépris qui vient de typiquement des zones à faible émission. On va périphériser des gens dans des territoires qui sont déjà perçus parfois comme étant périphériques, alors même que ceux dans les centres urbains pourront continuer à utiliser leur voiture. On comprend la raison derrière, sur le fond, lutter contre la pollution de l'air. Par contre, c'est vrai qu'en termes de ressentiment, bah, le ressentiment il est très important à cet égard-là.
Problème de mise en application, de méthode. Il faut effectivement quand même rappeler qu'une partie de l'opinion publique montre l'envie d'un monde plus sain, plus viable. Il y a vraiment les citoyens qui jouent leur rôle. Dans la deuxième partie de l'émission, nous allons bien sûr parler de ce qui est possible de faire et des solutions. Mais rappelons que, par exemple, face à la loi Duplomb, cette pétition qui a rassemblé très vite 2 millions de signataires montrait aussi que une partie de la population n'était pas contre les avancées en matière climatique et environnementale. Mathieu Gohard, on est dans des temporalités aussi, c'est important peut-être de le dire. Il y a la temporalité qui a vu les rapports des scientifiques, les alertes, les années 80 jusqu'à 2000 à peu près, la prise de conscience, les accords de Paris quand même, qui ont marqué vraiment un temps fort. Ensuite, il y a le temps politique, économique. Là, on peut parler aussi de premières opportunités peut-être manquées, puisque finalement, le Covid aurait certainement permis d'aller plus loin, plus vite, plus haut après justement le confinement. Et puis, nous sommes aujourd'hui dans ce temps de la mise en œuvre.
Il y aurait pu avoir une linéarité de l'action climatique, comme je l'appelle, c'est-à-dire les alertes des scientifiques. Ça remonte évidemment aux années 70-80, au premier rapport du GIEC. Il y a après tout un travail de conscientisation des populations. On l'a vu autour de la COP21 et puis les marches climat. Et donc, le troisième temps de l'action climatique, c'est la mise en œuvre politique, économique, sociétale. Les choses ne sont pas linéaires en politique et dans l'histoire. Voilà, c'est le sujet autour duquel on tourne en ce moment. Effectivement, la mise en œuvre, qui devrait être l'objet de cette décennie 2020-2030, prend du retard, subit des reculs, subit des attaques. Il y a différentes raisons à ça. Effectivement, je crois qu'on en parlait tout à l'heure aussi, c'est-à-dire que là, ça devient plus mordant, j'ai entendu cette expression. Effectivement, on s'attaque aussi à des intérêts dans le bon sens du terme, c'est-à-dire à des entreprises qui existent, qui ont besoin de dégager de l'argent, à l'industrie automobile au niveau européen, au niveau des États-Unis, au niveau du continent asiatique, c'est pas n'importe quoi. Il faut évidemment faire attention à ces entreprises, aux gens qui travaillent dans ces entreprises et à dessiner à la fois un avenir, à dessiner une trajectoire de neutralité carbone, mais un avenir de société. On évoque les compensations pour les citoyens, il y a aussi les travailleurs. Et donc voilà, ce travail du politique, à la fois d'être concret dans les conséquences, d'être concret dans les aides et dans ce que sera la transition, aussi de penser le long terme et pas seulement le court terme de la prochaine élection. C'est ça que demande l'action climatique aux politiques. Et ils sont pris par des intérêts totalement contradictoires. Effectivement, on leur demande de réfléchir à la neutralité carbone en 2050. Et eux pensent à la prochaine élection. Mais parce que ça fait partie aussi de la vie de leur parti et de la vie de leur carrière politique. Et donc, c'est très compliqué de mettre en place des choses qui sont mordantes, qui sont compliquées, en pensant à sa réélection dans 4-5 ans. Et donc, il faut arriver
à... La vision court-termiste,
à surmonter ce paradoxe.
Alors le défi aujourd'hui, c'est de faire entrer le Green Deal dans les équations productives, sociales, politiques, culturelles, de façon peut-être plus centralisée, plus démocratique, plus négociée, plus contractuelle. Nous allons en parler dans un instant, après avoir entendu un choix musical, Malik Djoudi, qui nous chante « Vivant, c'est votre choix ». Théodore Talland, vous pouvez nous en dire plus peut-être ?
C'est une musique que j'ai commencé à écouter pendant tout l'été et qui, dans ce chaos mondial, la montée du fascisme et la crise environnementale, a tendance à me détendre. Donc je vous la propose.
Je suis enfin vivant. Vivant comme je l'aime. Des questions sur tout.
Malik Djoudi qui chantait « Vivant », le choix de Théodore Talland. Merci pour ce choix qui fait du bien, effectivement. De détricotage en renoncement, la transition écologique a-t-elle encore sa place dans les priorités politiques ? Comment redonner du souffle à cette transition écologique ? Quelles sont les solutions pour engager ce qui apparaît comme une révolution sociétale ? Nous en discutons avec nos invités dans « De cause à effet », le magazine de l'environnement de France Culture, émission en partenariat avec le journal Le Monde. Et nous sommes en compagnie de Mathieu Gohard, journaliste au Monde, en charge du suivi des politiques environnementales, Théodore Talland, chercheur et enseignant en sciences politiques à Sciences Po Paris, David Jays, essayiste, co-auteur du livre « La révolution obligée » paru chez Alary Éditions. Alors comment agir et à quel niveau, quelles solutions engager ? David Jays, vous avez commencé à regarder un petit peu et analyser, donner à comprendre ce que vous appelez cette révolution obligée, sociétale, qui modifie nos industries, nos modes de vie, notre alimentation, nos logements, la mobilité, etc. etc. Comment faire pour que cette écologie soit plus positive, enthousiasmante, génère du désir dans ce contexte de backlash dont nous avons parlé dans la première partie d'émission.
Évidemment, il faut être très humble parce que c'est le chantier le plus titanesque de notre siècle. Mais on voit bien qu'il y a des choses qui marchent. Alors, d'abord, le succès de la pétition contre la loi du plomb, il montre que les citoyens s'intéressent à l'écologie quand ça les concerne directement dans leur vie, c'est-à-dire quand ça implique la santé, la sécurité, la cohésion sociale, les débats qu'il y a sur la côte basque autour du recul du trait de côte, c'est la même chose. Donc, moi, ce que je dirais, le conseil que je donnerais à ceux qui fabriquent les politiques publiques, c'est d'être le plus concret possible. C'est d'essayer de voir à chaque fois quels impacts réels ça a sur la vie des gens. Deuxième dimension pour améliorer ces politiques publiques, c'est que à chaque fois que une décision va générer des coûts, en particulier pour les classes moyennes et les classes populaires, essayer de mettre en face de ces coûts un gain. Par exemple, la rénovation thermique d'un logement, c'est un certain investissement et la puissance publique peut l'accompagner, mais ça va faire baisser la facture énergétique, ça va améliorer le confort thermique, ça va améliorer la santé des habitants du logement. De la même manière, diversifier ses moyens de transport et prendre le vélo pour les petites distances, notamment en milieu urbain, c'est aussi très bon pour la santé. Vous voyez, et si on arrive à mettre en face de chaque effort ou de chaque mesure de transition des gains, des effets positifs, ça a un effet d'entraînement. Et puis, de manière plus systémique, ce que je crois, c'est qu'on ne peut plus appréhender la transition écologique en silo. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure à propos du contrat de transition juste, c'est qu'il faut essayer d'embarquer cette transition dans une équation
politique, sociale, productive, plus large d'une certaine manière. Et ce que je trouvais intéressant quand même avec le plan Biden, notamment les grandes mesures de réindustrialisation verte autour de l'IRA, Inflation Reduction Act, c'est qu'il essayait de lier la question de la décarbonation, notamment de l'énergie qui était utilisée par l'industrie américaine, à la réindustrialisation, à la création d'emplois dans les zones sinistrées, à la lutte contre le chômage. Et en fait, je pense que la bataille de la transition écologique, elle sera gagnée si on arrive tout simplement à conjuguer les bienfaits écologiques, les bienfaits sociaux et les bienfaits économiques.
Avec une volonté politique et aussi la capacité de mettre en place des moyens de financement, hein, puisque cette adaptation va coûter aussi, il faudra donc la financer avec, comme vous le dites, un meilleur horizon pour tous, mais accompagner les ménages les plus modestes et donc générer des investissements massifs. Comment vous imaginez justement ces solutions ? Vous parlez aussi de la nécessité de sortir la transition de l'indicateur PIB.
Alors, les investissements, ça va... je vais peut-être vous surprendre, mais je ne pense pas que ce soit le problème majeur. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'argent dans l'économie mondiale que on peut trouver de l'argent, en particulier de l'argent privé, parce que l'argent public, malheureusement, se fait rare en Europe, mais on peut trouver de l'argent pour financer la transition. Ce qui est certain, c'est qu'il faut que ça soit intéressant financièrement de financer la transition, et donc il y a un énorme travail à faire pour rendre les investissements dans la transition incitatifs. Vous voyez tous les débats un peu techniques qu'il y a eu ces dernières années autour de la taxonomie verte, hein, qui est une sorte de nomenclature des investissements verts utilisé par tous les acteurs financiers européens. C'est des travaux qui ont l'air comme ça un peu arides, mais qui sont absolument majeurs pour allouer l'épargne aux bons endroits et financer la transition. Mais je crois vraiment que le sujet majeur, c'est un sujet de contrat social, c'est un sujet de combat culturel, c'est un sujet de volonté politique, et que quand il y a une volonté politique, il y a un chemin financier.
Il y a un marché, en tout cas, à réinvestir. Hein. Vous nous parlez aussi de la Chine dans votre livre, dans un contexte géopolitique où cette puissance, la Chine, avance à marche forcée et domine les marchés. Et cela nous place aujourd'hui, en tout cas à l'échelle de l'Europe, dans une dépendance qui peut être dangereuse. Mais tout cela montre qu'il y a des marchés sur lesquels l'Europe peut se repositionner.
Quand Trump a été élu, j'ai écrit une tribune pour dire que l'Europe aurait tout intérêt à se positionner comme la grande rivale de la Chine dans l'innovation verte, parce que Trump, c'est vraiment un virage à 180 degrés par rapport à ce qu'avait engagé Biden autour de la réindustrialisation verte. Et aujourd'hui, il y a un seul leader dans le domaine de la technologie et de l'innovation verte, c'est la Chine, qui a accompli, il faut quand même s'en rendre compte, et il y a des chercheurs en sciences politiques qui ont travaillé hein, sur cette économie politique chinoise de la transition écologique, c'est le plus gigantesque effort industriel de tous les temps. C'est-à-dire que c'est plus important que ce qu'ont fait les États-Unis au moment de la Seconde Guerre mondiale. En termes d'investissement, de puissance installée, de capacité d'exportation, d'innovation technologique. Donc les Chinois, ils ont décidé de devenir l'atelier écologique du monde. Ils ont compris que le monde entier allait avoir besoin de batteries électriques, de voitures électriques, de pompes à chaleur, de pales d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques, de modules de panneaux photovoltaïques. Et ils ont fait un effort technologique et industriel en conséquence. L'Europe, malheureusement, dans le même temps, elle a continué sa désindustrialisation. On avait 30% des parts de marché sur le photovoltaïque en 2008, au moment où la Chine a accéléré sur ce terrain-là. Aujourd'hui, c'est 2,5% et vous avez encore des entreprises en France qui font faillite. Donc il y a un vrai problème, effectivement, du côté de l'offre et de l'industrie.
Oui, une transition écologique avec un réel potentiel de création d'emplois, de mieux-être et de mieux vivre. Nous pouvons en parler après avoir écouté ce reportage diffusé sur France 3, Centre-Val de Loire, le 22 février 2025. Il y est question de l'ADEME.
Ces centaines de mousses sont issues de vieux matelas jetés. Elles ne seront pas incinérées mais recyclées. La matière est d'abord déchiquetée, réduite en petits morceaux.
Et après, elle va être transférée, chargée dans un réacteur où on va faire la réaction chimique, la transformation de la mousse en liquide.
Le liquide est ensuite réemployé pour créer de nouveaux matelas. Voilà l'un des savoir-faire de cette entreprise. Autre technique développée ici, celle de la chimie verte à destination de l'industrie cosmétique, élaborée sans pétrole.
En l'occurrence, ici, c'est des dérivés de betteraves et des alcools gras, donc des produits naturels qui vont être transformés pour fabriquer un produit, un tensioactif.
Autant d'innovations permises grâce aux aides de l'ADEME, 5 millions d'euros au total pour ce géant de la polychimie.
Je crois qu'il faut être très clair, sans l'ADEME, on n'aurait pas fait. C'est un superbe outil, il y a une réelle volonté de l'État au travers de l'ADEME d'aider l'industrie à se transformer, et c'est l'industrie du futur.
En 2024, l'ADEME a financé 465 projets comme celui-ci en Centre-Val de Loire, pour 74 millions d'euros.
L'objectif est simple, c'est la neutralité carbone à 2050. Et pour ça, on y travaille localement et au niveau national, à la fois avec l'expertise nationale et puis l'expertise locale, et les relations qu'on arrive à nouer sur le territoire, et la dynamique et l'accompagnement des acteurs de façon à créer des projets qui contribuent à ces objectifs nationaux.
Mathieu Gohard, on voit la nécessité d'accompagner les acteurs. On pourrait parler aussi peut-être du besoin d'un État providence et planificateur, malgré l'instabilité politique. C'est vrai que l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, comme l'OFB, l'Office français de la biodiversité, comme l'ANSES, l'Agence nationale de santé, l'Agence bio ou encore le Conservatoire du littoral, ont vraiment subi ce backlash et ces attaques. Mais on voit aussi combien ces institutions sont là aussi pour tisser ce futur et aider à une planification écologique.
Oui, ils font un travail très important. Il y a des dizaines, des centaines de projets qui sont soutenus. Alors, évidemment, il peut y avoir des critiques. Tout n'est pas parfait. Et il y a des projets qui n'aboutiront pas, des choses qui sont à améliorer. Mais c'est intéressant parce que la Cour des comptes a fait un rapport il y a quelques jours sur
le 16 septembre dernier
sur la transition écologique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la Cour des comptes, comme beaucoup d'acteurs, dit en fait la transition écologique va nous faire économiser de l'argent à moyen long terme. C'est toujours cette question du moyen long terme comparé au court terme et aux finances publiques actuelles de la France, qui ne sont pas dans un bon état. Et c'est intéressant de voir ça, c'est que des projets soutenus par l'ADEME, le travail de ces agences de l'environnement, vont à terme nous permettre d'économiser de l'argent, d'améliorer la santé des gens, etc. C'est plutôt vertueux. Mais à court terme, effectivement, elles sont attaquées. Pour revenir sur la Cour des comptes, c'est intéressant aussi dans un contexte de backlash contre l'écologie, oui, de voir qu'il y a un verdissement de la haute fonction publique française à Bercy, du côté du Trésor, à Matignon, du côté du SGPE, c'est-à-dire le secrétaire général qui mène la planification écologique. Il y a quand même des choses qui sont faites. Le relais politique n'est sans doute pas à la hauteur par peur d'une réaction de l'opinion, ce dont on parle depuis le début de cette émission. Et donc voilà, maintenant, il faut trouver dans les solutions quelque chose qui permet de passer des trajectoires de la réflexion à la concrétisation. Sans doute qu'il peut y avoir quelque chose aussi autour d'une sorte de service public de la transition écologique. En tout cas, d'une centralisation, même si c'est pas un terme que les Français apprécient toujours, mais de quelle aide je peux bénéficier, sur quel secteur, etc. Une simplification dans l'usage de la part des citoyens de la transition écologique. Ça, c'est quelque chose sur laquelle il faudrait peut-être réfléchir dans les années à venir.
David Jayes, vous qui avez été haut fonctionnaire et inspecteur des finances, si je ne m'abuse, est-ce que ce verdissement en haut lieu, vous le percevez, vous aussi ? C'est vrai que la Cour des comptes parle de redonner sa place au secrétariat général à la planification écologique et de trouver 110 milliards d'euros à horizon 2030.
Oui, ce verdissement, il est réel et Mathieu Gohard a raison de dire qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance de ce changement de mentalité. Moi, je le vois à Bercy, par exemple, on a des fonctionnaires qui sont formés à la gestion des finances publiques et qui donc ont une vision très rigoureuse des deniers publics. Et on commence maintenant, ça commence tout juste, mais à compter aussi bien en carbone qu'en euros. Et vous voyez, quand on commence à compter en carbone, ça veut dire que le compteur tourne aussi. Alors, vous allez me dire, c'est pas parce qu'on est formé aux finances publiques qu'on les laisse pas dériver. Regardez ce qui se passe avec les finances publiques françaises. Et c'est pareil, malheureusement, pour les émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est bien que cette culture se développe. Quant au secrétariat général à la planification écologique, sa création a été un véritable événement au sens où, comme c'est rattaché directement au Premier ministre, ça permet d'avoir des arbitrages sur des sujets sur lesquels il n'y avait aucun arbitrage. Je vais prendre deux exemples, le plan eau et puis l'agriculture. Il y a eu des arbitrages qui ont été faits entre 2022 et 2023. Malheureusement, depuis, on va plutôt de recul en recul, mais qui n'avait jamais pu être fait auparavant parce que le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement s'opposaient frontalement et que le Premier ministre, tel Ponce Pilate, s'en lavait les mains. Et du coup, il n'y avait pas d'arbitrage. Quand vous avez une instance experte dans les questions environnementales qui est chargée d'instruire ces sujets directement au niveau du Premier ministre, eh ben, ça facilite les arbitrages interministériels sur ces irritants. On peut parler de la forêt aussi, qui est un sujet très compliqué, puisque notre puits carbone forestier français s'est effondré. Donc, ça a été un vrai progrès. Et malheureusement, ce secrétaire général à la planification écologique, depuis le départ d'Antoine Peillon, hein, qui a été le haut fonctionnaire qui a occupé le premier ce poste, il est un peu à l'arrêt. Et je pense qu'il serait bon de relancer son activité, notamment parce qu'il a très bien travaillé sur les grandes trajectoires sectorielles, mais que maintenant, il faut entrer dans le concret de la négociation et de la mise en œuvre.
Mathieu Gohard.
Sauf que tout le monde s'est félicité à l'époque qu'en fait, Matignon récupère la transition écologique, la planification écologique, parce que Matignon, c'est la chambre des arbitrages en France. Sauf que ça... Une conséquence, c'est que la transition écologique dépend aussi de la personnalité d'un Premier ministre. Et là, on en revient à la personnalisation de la vie politique. Et que des Premiers ministres assis sur des majorités très faibles, ou alors qui n'ont pas du tout cette culture à la transition écologique, soit la délaissent complètement, ou alors avalisent des reculs. C'est ce qu'on a vu avec Gabriel Attal, puis François Bayrou, alors que Michel Barnier a quand même évoqué la dette climatique. Mais voilà, on a quand même une planification qui est dépendante du désidérata du politique.
Et quand on en parle, ça ne prend que 1 minute 30 dans certains discours donnés. Je vous propose, puisqu'on a aussi beaucoup parlé des agriculteurs, d'écouter ce petit reportage diffusé sur France 24 le 10 août 2025. Vous entendrez deux positions, mais qui permettent quand même de construire le monde d'après.
Deux agriculteurs, deux regards qui s'opposent sur la loi Duplomb. Thierry Descazeaux est producteur de noisettes dans le Tarn-et-Garonne.
Ça, c'est invendable, en fait, parce qu'il y a une piqûre de punaise et si vous le mangez, ça a goût à punaise.
Une perte de production qu'il attribue à l'interdiction de l'acétamipride, l'insecticide que le Conseil constitutionnel ne recommande pas de réintroduire dans les cultures françaises. De la concurrence déloyale, selon lui.
On ne comprend pas cette décision. On va être le seul pays au monde à ne pas avoir l'usage de l'acétamipride. Les seuls. Oui, j'en ai les larmes aux yeux parce que c'est mon métier. Et je ne veux pas disparaître. Et je suis très fier de mes valeurs paysannes.
L'acétamipride, très demandé aussi par de nombreux producteurs de betteraves, qui affirment que sans cet insecticide, la filière sucre s'effondrerait. Thomas Lafoisse cultive des betteraves bio dans l'Essonne. Lui, mise sur des alternatives naturelles depuis 7 ans. Malgré les insectes, il affirme n'avoir jamais perdu plus de 20% de sa production.
Cette année-là, on a eu une énorme attaque de pucerons, mais dans les jours qui ont suivi, il y a eu des nuages de coccinelles et de larves de coccinelles qui ont réussi à réguler la population. Et puis surtout, la rotation des cultures. En fait, sur 6, 7 ou 8 ans, on va alterner différentes cultures qui vont casser les cycles des maladies, des reproductions des insectes et des mauvaises herbes aussi.
Théodore Talland, vous qui êtes au contact de ces territoires, vous avez probablement rencontré des agriculteurs. Qu'est-ce que vous percevez? Là, on entend deux cas, effectivement. Un agriculteur qui continue avec les intrants chimiques, un autre qui a fait en sorte d'en sortir. Il y a, il faut le dire aussi, là, des encadrements, des aides avec l'INRAE, par exemple, des conseils pour pouvoir engager l'agriculture de demain. Qu'est-ce que vous percevez de l'action possible de ces citoyens?
Je trouve que la question agricole est un sujet éminemment complexe, parce qu'on se confronte à l'identité de la France, à l'imaginaire que ça charrie avec cela, et des conflits aussi de pratiques, des personnes qui ne sont pas forcément d'accord, des lobbies importants. Mais ce que je trouve intéressant avec cette question agricole, c'est qu'on est en plein dans ce qui se passe, ce qui ne se passe pas, du coup, de la transition écologique. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est qu'il y a les effets du changement climatique, il y a des désordres que les agriculteurs voient au quotidien. Les agriculteurs que je rencontre en zone rurale, il n'y en a pas un qui me dit qu'il n'est pas impacté au quotidien du fait du changement climatique et des différentes crises écologiques. Mais aussi, la majorité d'entre eux disent que c'est compliqué de passer à d'autres formes de production, qu'on a toujours fait comme ça, qu'on a été soutenu pendant des décennies par la puissance publique pour faire d'une certaine manière et que tout d'un coup, on doit faire d'une autre manière. Et en fait, ça dit des choses plus générales, on va dire, sur l'acceptabilité de la transition écologique et sur la voie qu'on peut dessiner. Ça dit que, et David Jayce l'a dit, on peut pas faire de politique environnementale s'il n'y a pas d'accompagnement des personnes qui sont exposées. Ça veut dire les agriculteurs, mais ça veut dire les personnes qui doivent utiliser une voiture thermique et qui doivent passer à un véhicule électrique. Ça veut dire les personnes qui travaillent dans les énergies fossiles ou dans les industries carbonées qui doivent potentiellement passer vers un nouveau type de métier qu'il faut reformer. L'industrie automobile. J'ai vu des gens dans le nord de la Lorraine qui, vont peut-être perdre leur emploi du passage des véhicules thermiques au véhicule électrique. c'est un peu une fatalité. Il va falloir passer au véhicule électrique, mais il va falloir accompagner ces travailleurs-là.
David Jayes préconise d'ailleurs un pass climat, hein, qu'il détaille précisément, un peu comme le pass culture, mais pour financer selon les besoins des uns et des autres.
Enfin, la question, c'est comment on va financer cette transition-là. Et financer, ça veut dire accompagner du coup les citoyens, ça veut dire aussi les projets industriels, mais ça veut dire comment on pense l'éco-bénéfice, parce que je parle d'éco-bénéfice, l'éco-bénéfice, ils sont très importants. On sait qu'on a parlé un petit peu, mais si on passe à l'alimentation bio, c'est meilleur pour la santé, meilleur pour les écosystèmes, et du coup, meilleur pour la planète. Si on passe à la mobilité décarbonée, de la même manière, c'est meilleur pour notre pouvoir d'achat sur le long terme, parce qu'à l'usage, une voiture électrique est 2 à 7 fois moins chère qu'une voiture thermique, mais qu'il va falloir financer le passage au véhicule thermique. Du coup, il va falloir financer le passage à l'alimentation bio qui coûte plus cher. Si on passe vers certains types de production électrique, et ben on sait qu'à court terme, il a fallu au début financer les énergies renouvelables qui maintenant sont devenues de moins en moins chères, mais il a fallu ce petit soutien financier de l'État. Et en fait, si on va sur tous les sujets, la rénovation, c'est la même chose, il va falloir financer les petites choses qui vont nous permettre de débloquer tout le reste. Et tout le reste, les gens le veulent. C'est ça que je veux dire à tout, et ça permet de conclure aussi sur ce que j'ai commencé. Je suis parti du politique, et je vais conclure sur le politique. Les acteurs politiques qui ne sont pas dans la coalition anti-écologique, c'est-à-dire ce qui pourrait aller du bloc central à la gauche, sont en train d'abandonner un enjeu qui pourtant peut faire recette électorale. On a l'impression que c'est forcément un coup électoral. Tout à l'heure, on parlait de stratégie électoraliste en disant on est contre l'écologie parce que c'est coûteux électoralement. Pas forcément. L'écologie mal faite, c'est coûteux électoralement. Des études de collègues à travers le monde le démontrent. Si c'est mal fait, que ça a un coût important, les gens se rebellent et votent pour les partis d'extrême droite. Mais une transition écologique qui apporte des bénéfices sur la santé, le pouvoir d'achat, l'alimentation, le logement, la qualité de vie, c'est une écologie qui donne envie. Et je pense que si on fait de l'écologie la matrice politique de nos programmes politiques pour la suite sur les sujets qui ne sont pas directement les sujets écologiques, il y a moyen ici d'avoir des recettes électorales importantes et je pense que beaucoup de personnalités politiques seraient bien tentées de m'écouter sur ce sujet-là.
Mathieu Gohard, rapidement, inventer un nouvel art de gouverner, hein, c'est la question qui se pose. Cela pose aussi la question du courage et de la capacité des politiques à assumer de tels enjeux dans un contexte de crise multiple.
Oui, c'est, je pense, le plus grand défi de moyen long terme qui est proposé aux personnels politiques et aux dirigeants de la planète. Force est de constater qu'ils peuvent mettre en place des structures pour penser le long terme. Hein. On a réhabilité le commissariat au plan, on évoquait le SGPE, mais que l'actualité, les crises qui paraissent plus urgentes, et effectivement il y a des crises immenses, balaye ce défi. Emmanuel Macron, en 2022, avait évoqué le combat du siècle. Il avait parfaitement raison. Maintenant, il va falloir arriver à penser ce combat du siècle dans les pratiques politiques de chaque pays, et notamment de le penser dans le cadre des alternances, c'est-à-dire que ça ne peut pas être seulement sur la durée d'un mandat, et ça doit être récupéré par la personnalité élue la fois suivante, qui n'est pas forcément du même bord politique, et ça, c'est un défi immense pour les démocraties.
David Jayes, depuis la sortie de votre livre, est-ce que vous avez suscité de l'intérêt côté politique ?
On a eu pas mal de conversations, notamment avec des fonctionnaires européens, autour du Green Deal, de ce qu'on pouvait améliorer, de ce qui avait été réussi, pas réussi. Du côté de la classe politique française, je dois vous dire qu'on a un peu fait chou blanc, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de conversations, évidemment, mais le livre est sorti en plein backlash, et on voit bien qu'il y a un désintérêt de ces sujets, y compris dans la classe politique française, et ce désintérêt est généralisé. Vous voyez, il se trouve que hier j'étais à un débat avec Marine Tondelier, qui est la patronne du Parti écologiste, et elle disait que quand elle faisait un tweet sur les réseaux sociaux sur les questions environnementales, elle avait entre 15 et 40 likes à cause de l'algorithme de Twitter. En revanche, quand elle parlait de la Palestine, du conflit social, etc., elle avait plusieurs milliers de likes. Donc il faut qu'on s'interroge collectivement, parce que je pense que, et je souscris à ce qu'a dit Théodore Talan, l'envie d'écologie, elle est là, dans une majorité. En tout cas, il y a une majorité potentielle autour de ce sujet. Mais il faut trouver à la fois les bonnes politiques publiques, les bons mots, les bons imaginaires pour réveiller ce désir et créer des coalitions majoritaires.
Merci à tous les trois. Merci Mathieu Gohard, direction le site du Monde et puis le site de l'émission aussi pour découvrir vos contributions parues dans le journal Le Monde, notre partenaire. Merci Théodore Talan, merci David Jayes. À lire votre livre La Révolution Obligée, écrit avec Xavier Desjardins et paru chez Alary Éditions. Et comme d'habitude, toutes les informations sont à votre disposition sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Merci à vous.